une question dont la réponse encouragera beaucoup de gens. Est-ce que le fait d'être populaire signifie qu'on est un homme de valeur aux yeux de Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse étonnante pour plusieurs, aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois que le Seigneur nous réserve du bon temps dans sa parole aujourd'hui. Vous serez sûrement d'accord avec moi, simplement en entendant les questions que voici. Selon Dieu, quel a été le plus grand péché de David? Est-ce que nos attitudes, nos pensées et nos intentions peuvent être péchés autant que nos actions? Selon Dieu, qui sont les hommes de valeur? Est-ce par sa popularité qu'on peut voir la valeur d'un homme? Est-ce que Dieu récompense les sacrifices qu'on fait pour lui? Comment est-ce qu'on peut vivre pour le Seigneur Jésus? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert le grand livre de Dieu et il est prêt à nous enseigner ce qu'il dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, j'aime te prier. J'aime te prier avec nos auditeurs, avec le même but, celui de mieux te connaître et de faire ta volonté. Enseigne-nous, Seigneur. Et donne-nous du courage et de la persévérance pour ce qui est de mettre en pratique ta belle parole. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu qu'après la venue de Jésus-Christ, les généalogies conservées au Temple furent détruites. Jésus étant le dernier Adam, le deuxième homme. Il n'y en aura pas d'autre. La famille du premier Adam est une race pécheresse et perdue. C'est dans cette famille que nous sommes nés. Mais il y a de l'espoir, puisque, par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons être adoptés dans cette autre famille, dans sa famille, dans celle du dernier Adam. Nous avons vu aussi la mort de Saül, au chapitre 10. Dieu a fait périr Saül parce que, plutôt que de consulter Dieu, il a consulté une sorcière. Dans l'ensemble de sa vie, Saül ne se préoccupait pas de Dieu. Il ne cherchait pas à connaître sa volonté, ni à s'y soumettre, lorsque le prophète Samuel la lui indiquait clairement. Nous sommes maintenant rendus à la troisième division majeure du premier livre des Chroniques. La première section contient les généalogies, et la deuxième, la fin du règne de Saül. Saül n'a pas impressionné Dieu. Son règne ne fut pas le succès escompté lorsqu'il monta sur le trône. Ce livre des Chroniques ne mentionne pas les exploits de Saül ni ses accomplissements. La section que nous débutons aujourd'hui traite du règne de David. Premièrement, nous allons faire la connaissance des hommes valeureux de David, chapitres 11 et 12. Ensuite, David amènera l'arche à Jérusalem, chapitres 13 à 16. Le désir de David de construire un temple, chapitre 17. Les guerres de David, chapitre 18 à 20. Le recensement du peuple et le péché de David, chapitre 21. Et la préparation et l'organisation de la construction du temple, chapitre 22 à 29. La suite de ce livre traite du règne de David. En fait, les généalogies des premiers chapitres nous conduisent à David et à sa postérité. Le deuxième livre des Chroniques traite des descendants de David qui ont monté sur le trône d'Israël. Presque pas d'attention est donnée au royaume du Nord qui s'est séparé du trône de David. Ce que nous considérons un petit péché, Dieu le voit comme un grand péché. Il est intéressant de noter que Dieu met l'accent sur certains éléments de la vie de David alors que d'autres sont à peine effleurés. Notez que nous parlons du péché de David au chapitre 21, mais cela n'a rien à voir avec l'adultère commis avec Bathsheba. la première chose qui nous vient habituellement à l'esprit lorsque nous parlons du péché de David. C'est le péché qu'a commis David en faisant le dénombrement d'Israël que Dieu a enregistré dans le livre des Chroniques. Dieu considérait cela le plus grand des péchés. Les attitudes, les pensées, les intentions peuvent être aussi des péchés. Il y a une leçon importante pour nous dans ce fait. De nombreux chrétiens considèrent certaines actions un péché grave et ils en ignorent d'autres. Lorsque nous serons en présence de Dieu, nous découvrirons que Dieu ne voyait pas les choses du même œil que nous. Nous verrons que Dieu considère très graves certaines actions que nous ne pensions pas sérieuses, et certaines choses que nous considérions un grand péché ne l'étaient pas. Plus loin, dans ce livre, nous verrons pourquoi le dénombrement du peuple était plus grave que le péché d'adultère qui fut pardonné lorsque David le confessa. Ceci devrait nous donner une autre perspective de ce qu'est le péché. Le péché, ce n'est pas seulement des actions, mais des attitudes, des pensées et des intentions. Il faut étudier la parole attentivement pour voir le péché du même œil que Dieu. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Chronique, chapitre 11, verset 1er. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Vous vous rappellerez que dans le livre de Samuel, qui a couvert cette période de l'histoire, nous avons appris que David a régné pendant 7 ans sur 2 tribus, Juda et Benjamin, et sa capitale était Hébron. Le livre des Chroniques ne parle pas de cette partie de l'histoire d'Israël. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, Israël est une nation avec 12 tribus. Selon Dieu, le règne de David a débuté lorsqu'il devint roi de tout Israël, et que les 12 tribus l'ont accepté comme roi en disant « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Verset 2. Autrefois, déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit « Tu paîtras mon peuple d'Israël. » Et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. » Les tribus ont reconnu la main de Dieu dans ces événements. David n'est pas devenu roi tant que le peuple n'a pas reconnu qu'il était le choix de Dieu. Soit 7 ans après de règne sur Juda et Benjamin. Verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David est maintenant roi des 12 tribus, et selon Dieu, c'est là que débute son règne. Verset 4. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébu. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. David avait inspecté le pays, et il devait le connaître beaucoup mieux que les 12 espions qui l'avaient exploré alors que le peuple arriva aux limites de la terre promise à sa sortie d'Égypte. David choisit donc Jérusalem pour en faire la capitale de la nation. Le temple y sera construit. Cette ville fut le choix de Dieu et de David. Verset 5. Les habitants de Jébu dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David s'empara de la forteresse et il y construisit son palais. Verset 6. David avait dit, « Quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. » Joab, fils de Tsiruja, monta le premier et il devint chef. Joab était le bras droit de David. Il était son conseiller et son chef d'armée. Il faisait partie des hommes de valeur de David. Certains de ses exploits, lorsqu'il vint vers David au début, nous sont racontés. Il commanda l'armée et combattit pour David. Cet homme devint le chef de l'armée. Il était responsable de toutes les forces militaires. Verset 7. David s'établit dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appela Cité de David. La Cité de David est en fait la zone du mont Sion. C'est là que le palais de David fut construit, car il aimait l'endroit. Verset 8. Il fit tout autour de la ville des constructions, depuis Milo et aux environs, et Joab répara le reste de la ville. Joab ne fut pas seulement responsable de l'armée, mais il s'occupa aussi du développement urbain, surtout en ce qui avait trait à la défense de la ville. Verset 9. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. David fit d'Israël une nation puissante et influente dans le monde. David a posé le fondement sur lequel Salomon a pu témoigner au monde entier. Les hommes de valeur sont ceux qui se joignirent à David lorsqu'il fut rejeté. Maintenant qu'il est monté sur le trône, ces hommes reçoivent des positions élevées avec lui. Le Seigneur appelle des hommes de valeur. Nous pouvons faire un parallèle entre le Seigneur Jésus-Christ et David. Aujourd'hui, le Seigneur appelle des hommes afin qu'ils portent son nom. Et ils sont ces hommes de valeur. C'est une période de rejet pour le Seigneur Jésus. Son peuple n'a pas voulu qu'il règne sur lui. Le Seigneur ne s'est pas encore manifesté comme le roi des rois. David aussi fut un homme rejeté, même s'il avait été roi d'Israël. Saül règne encore et Dieu lui a donné l'occasion de se repentir, mais il ne l'a pas fait. David dut fuir pour préserver sa vie pendant quelques années. Des hommes sont venus de partout pour se placer sous ses ordres. Ils devinrent les hommes de valeur de David. De nos jours, le monde rejette le Seigneur Jésus. Je n'ai pas besoin d'élaborer sur ce point. Si vous ne percevez pas cela, vous êtes aveugle. Nous vivons dans un monde qui rejette le Seigneur Jésus. Pendant cette période, il appelle un peuple à lui afin qu'il porte son nom. Il devient le Sauveur et le Seigneur de ce peuple. Lorsqu'il règnera, nous régnerons aussi avec lui. Nous pouvons juger un homme par ses ennemis. Puisque le Seigneur est rejeté, je ne comprends pas pourquoi certains croyants désirent devenir les personnes les plus populaires en ville. Ils ne pourront jamais l'être. Le Seigneur a dit que le monde le hait et qu'il nous haïra aussi. Si vous êtes populaire auprès du monde, il est grand temps que vous vous examiniez. Nous pouvons juger un homme par ses ennemis. Mes amis, si vous êtes un croyant en Jésus-Christ, les amis de Satan seront vos ennemis. Nous vivons dans une période qui rejette le Seigneur Jésus, et il appelle ses hommes de valeur. Les trois hommes de David qui furent considérés les plus vaillants sont ceux qui sont allés puiser de l'eau dans le puits de Bethléem et qui l'ont rapporté à David. Voici cette histoire. 1 Chronique, chapitre 11, versets 15 à 19. Trois des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adoulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée de Raphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste des Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire. Et il la répondit devant l'Éternel. Il dit, « Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. » Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. David avait été élevé à Bethléem. Il connaissait la ville et il avait dû souvent boire de l'eau du puits en revenant des pâturages avec ses brebis. Les Philistins étaient à Bethléem et ils interdisaient l'accès au puits. David a exprimé le désir de boire de l'eau du puits, mais il n'en fit pas un commandement. Ces trois hommes traversèrent les lignes ennemies et rapportèrent de l'eau à David. Celui-ci a préféré l'offrir à Dieu plutôt que de la boire. Nous avons encore une illustration. Jésus est né à Bethléem, et il est l'eau de Bethléem. Il est l'eau qui jaillit dans la vie éternelle. De nombreux hommes vaillants du Seigneur Jésus-Christ ont apporté cette eau à un monde assoiffé au cours des siècles. Je pense à tous ces missionnaires, tels que Livingstone, Judson et Henry Martin, ainsi que de nombreuses autres personnes. Nous en rencontrons partout dans le monde, même aujourd'hui. Dieu prend le nom de ces personnes en note et elles seront inscrites sur la liste des personnes de valeur. Aidez-vous à porter l'eau qui jaillit dans la vie éternelle, dans le monde entier? Notez comment les hommes de David réagissaient lorsqu'il exprimait le moindre souhait. Il n'aurait jamais fait d'une telle requête un ordre. Cependant, le Seigneur nous a commandé de porter l'eau qui jaillit dans la vie éternelle dans le monde entier. Qu'avez-vous fait jusqu'à présent? Obéissez-vous à ce commandement? Notez ce que David fit avec l'eau. Il n'était pas un homme égoïste. C'est pourquoi ces hommes l'aimaient. Ils étaient disposés à souffrir pour lui, car il acceptait de souffrir avec eux. Il n'a pas bu cette eau parce que ces hommes n'en avaient pas. Il a choisi d'endurer sa soif comme devaient le faire ces hommes. Le psaume 22, verset 14, dit que lorsque le Seigneur est mort sur la croix, il a dit « Je suis comme de l'eau qui s'écoule ». Il a versé sa vie sur le sol, comme si c'était de l'eau. Il est devenu comme l'un de nous, car un fils nous est né. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Il a vécu notre enfer pour partager son ciel avec nous. Voici un autre incident intéressant rapporté dans ce chapitre. Toujours le 11e chapitre de 1 Chronique, cette fois le verset 22. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabtséel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne, où il frappa un lion un jour de neige. Il a tué un lion, et il l'a fait un jour qu'il neigeait. Le Seigneur en a pris note. Le Seigneur prend note des gens qui assistent fidèlement à l'Église, qu'importe la température et qu'importe l'animal que vous croisez en chemin. Au chapitre 12, j'aimerais que nous nous arrêtions sur un seul événement. Des hommes de la tribu de Gad sont venus vers David alors qu'il fuyait Saül. Voici le récit de l'incident. 1 Chronique, chapitre 12, versets 14 à 18. C'étaient des fils de Gad, chef de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois lorsqu'il débordait sur toutes ses rives et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. » Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit, « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Voici un groupe d'hommes qui vint trouver David. Ils traversèrent le Jourdain en période d'inondation. David vint au-devant d'eux. Ils ne savaient pas s'il venait en ami ou en ennemi. Les paroles de David signifiaient, « Si vous venez pour me faire du mal, je vous détruirai. » Ils répondirent, « Non, David, nous sommes venus pour être à tes côtés. » Il voulait vivre pour David et être à son service. Se tenir occupé n'est pas vivre avec le Seigneur. Trop de chrétiens qui désirent servir le Seigneur pensent que ce n'est qu'une question de se tenir occupé. Cependant, la véritable question est, Désirez-vous vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, être à ses côtés, de bénéficier de sa présence? C'est ce que ces hommes de Gad disaient à David. « Nous voulons être à tes côtés, David. Nous voulons nous soumettre à toi et vivre pour toi. » Nous pouvons aller un pas plus loin avec cette application spirituelle. Le Seigneur Jésus vous a apporté de l'autre côté du Jourdain par sa mort et sa résurrection, et il vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais vous devez retourner dans le monde et y vivre en chrétien. Le Seigneur Jésus a prié pour les siens. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Jean chapitre 17, verset 5. C'est maintenant le temps de faire notre vie chrétienne. C'est seulement sur la terre que nous avons l'occasion de vivre notre vie chrétienne. Pour accomplir cela, il faut donner les rênes de notre vie à Jésus-Christ. L'idée de vivre en chrétien et faire une vie hypocrite pleine de compromis est fausse. Vous devrez traverser les eaux à la nage et votre vie chrétienne vous coûtera quelque chose. Vous devrez aller à une personne plus grande que David, soit le Seigneur Jésus, et vous soumettre à lui. Oh, quelle joie que celle d'être à son service! La vie chrétienne apporte une joie que seul un chrétien véritablement consacré peut ressentir. L'apôtre Paul et ses compagnons chantaient dans la prison de Philippe, Actes chapitre 16. Les apôtres furent joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus, Actes chapitre 5. Les chrétiens conservaient leur joie dans les épreuves. Cela ne veut pas dire qu'ils ne les trouvaient pas difficiles. D'ailleurs, lorsqu'il en avait l'occasion, l'apôtre Paul se servait de sa citoyenneté romaine pour ne pas être battu ou maltraité. Les apôtres ne recherchaient pas la souffrance, mais lorsqu'ils subissaient de la persécution, ils pouvaient cependant demeurer dans la joie. D'ailleurs, ceux qui enseignent que la vie chrétienne est une vie dans la soie et dans la ouate donnent un faux message. La parole de Dieu est claire là-dessus. Le véritable chrétien est un être persécuté, haï par les siens. La vie chrétienne attire des persécutions, mais l'amour du Seigneur Jésus nous garde dans la joie. Prenons part aux souffrances de Jésus dans ce monde. Et par le fait même, nous prendrons part aussi à ses bénédictions. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. L'apôtre Paul encourage tous les véritables croyants de la sorte en disant, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Celui qui voudra ressembler de plus en plus à son maître, eh bien, devra subir aussi les persécutions de ce monde. Dans Jean chapitre 15, le Seigneur Jésus encourage les siens en disant, « Ils m'ont haï sans cause, ils vous haïront aussi. » Le véritable croyant est ici-bas, sur cette terre, en ennemi de ce monde, parce qu'il lui appartenait autrefois. Mais le Seigneur est venu nous chercher dans ce monde perdu afin que nous devenions maintenant des disciples et des membres maintenant de cette nouvelle famille qu'est la famille de Dieu, l'Église. Voilà pourquoi nous serons persécutés, parce que ce monde rejette Christ et tout ce qui lui appartient, ainsi que ses enfants. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Chronique, les chapitres 13 et 14.
Oh, merci beaucoup, Régent. Mes amis, désirez-vous vivre pour le Seigneur Jésus? C'est la question que Régent nous a posée vers la fin de son enseignement aujourd'hui. Et j'ai tellement aimé tout ce qu'il a dit après. Il a mentionné qu'il nous fallait remettre les rênes au Seigneur Jésus. Il a dit que ça doit nous coûter quelque chose, qu'on doit se soumettre à Dieu. Et il s'est aussi exclamé « Oh, quelle joie que celle d'être à son service !» C'est bien vrai que la vie chrétienne apporte une joie que seuls les chrétiens véritablement consacrés peuvent ressentir. Il a mentionné la joie de l'apôtre Paul et de ses compagnons qui chantaient alors qu'ils étaient en prison, qui étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Mon ami, mon frère, ma sœur, Es-tu joyeux? Es-tu joyeuse dans l'épreuve? Je sais que tu peux trouver ça difficile en ce moment, et c'est normal. Mais gardes-tu ta joie? Quand tu es persécuté parce que tu annonces aux gens qu'ils ont à se repentir et à recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, est-ce que ta joie demeure? Es-tu même joyeux à cause de cette persécution? Personnellement, je sais que c'est l'amour du Seigneur Jésus qui me garde dans la joie à travers les épreuves et les persécutions. Oh, je suis comme toi. Moi aussi, je pleure parfois. Mais dans ces moments, je tourne mes regards vers Jésus et je lui dis ce qui me fait de la peine. Aussi, je choisis de pardonner à mes persécuteurs et je demande au Seigneur de leur pardonner, de leur donner la vie éternelle, qu'ils fassent d'eux mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Ça me fait penser à une dame à qui j'ai enseigné l'anglais il y a plusieurs années. Elle me posait beaucoup de questions concernant le plan de Dieu pour sauver les pécheurs perdus. Mais à un certain moment, après avoir parlé de Jésus avec elle plusieurs fois, elle s'est mise à me parler avec beaucoup de dureté. Et le Seigneur m'a aidé à lui répondre avec amour. Mais un jour, elle a décidé de cesser ses cours, disant qu'elle ne pouvait plus supporter d'être en ma présence. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pris la décision de continuer à prier pour elle, jusqu'à ce qu'elle décide de prendre la décision de se repentir et de recevoir le pardon de ses péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Et je l'ai perdue de vue, mais je prie encore pour elle. J'ai la conviction que Dieu va la rencontrer un jour, qu'il va la convaincre de se repentir et de recevoir le salut par Jésus-Christ. Je ne suis pas triste quand je pense à elle. Au contraire, je suis dans la joie parce que Dieu a permis que je subisse des outrages pour le beau nom de Jésus. Et aussi parce que je sais qu'il va tout faire pour qu'elle tourne ses regards vers lui, afin qu'il lui donne le plus beau cadeau qui soit, la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, prenez courage. Le Seigneur est à l'œuvre, même quand on ne le voit pas. Il est à l'œuvre dans le cœur des gens qu'on a à cœur pour son Évangile. Il est à l'œuvre dans le cœur de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta sœur. Dieu est à l'œuvre. Tu le vois peut-être pas, mais il est à l'œuvre. Continue à prier pour lui, pour elle. Continue à l'aimer. Et Dieu va accomplir une œuvre parfaite, éventuellement. Encourageons-nous mutuellement et prions avec acharnement pour ceux qu'on aime. Pour ceux qu'on aime qui nous côtoient chaque jour. Aimons-les. Aimons-les inconditionnellement comme Jésus. Rendons-leur le bien pour le mal. Et bientôt, on va voir des fruits. On va voir que Dieu a travaillé dans leur cœur pour leur donner la vie éternelle.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement, on est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire, et si tu es souffrant, bien c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. J'ai à toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine à tous!
Et à lundi! Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.